Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Il n'exerce plus comme professeur un an après l'assassinat de Samuel Paty. Son plus proche collègue témoigne au micro de France Inter, prof d'histoire géo comme lui. Il a rendu son tablier pour reconstruire sa vie, on va l'entendre dans un instant. Puis nous pénétrerons au cœur de la plateforme Pharos qui surveille Internet et les réseaux. Elle a fait presque 10 000 demandes de retrait de contenu lié au terrorisme depuis le début de l'année. Après le chèque énergie, y aura-t-il un chèque carburant? Face à la hausse du gasoil et de l'essence, le gouvernement songe à un coup de pouce pour les ménages les plus modestes. Anne Hidalgo, candidate officielle du Parti Socialiste, elle devrait être investie aujourd'hui avant de relancer une campagne qui ne fait pas rêver les militants pour l'instant. Chez vous, Nicolas, c'est la première d'un nouveau rendez-vous qu'on va retrouver régulièrement au fil de la campagne présidentielle. Le grand entretien prend la forme d'un débat ce matin.
Oui, débat ce matin avec le politologue Dominique Régnier et l'historien Pascal Blanchard autour de cette question de l'identité française qui domine pour l'instant, vous le savez, la pré-campagne présidentielle. Amis auditeurs, appelez-nous 01 45 24 7000.
C'est le système B comme Bolloré. 11 journalistes racontent leur passage chez le nouvel empereur des médias dans un film de Reporters sans frontières. On va les entendre. On pleurera aussi sur le trône déchu du camembert. La mozzarella vient de lui passer devant. Et puis comment quadrupler le prix d'une œuvre en la détruisant, par dit le Banksy qui avait fait tant parler de lui il y a 3 ans. Est revendu aux enchères aujourd'hui.
France Inter.
Demain, il y aura une minute de silence dans tous les établissements scolaires en mémoire de Samuel Paty, professeur d'histoire géo, assassiné il y a un an à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré des caricatures du prophète de l'islam. Ce silence, l'homme que vous allez entendre, l'a fait total face à ses élèves. C'était le plus proche des collègues de Samuel Paty qu'on a entendu cette semaine sur France Inter. Lui a décidé de quitter l'éducation nationale et le collège du Bois d'Aulne. Sonia Princet est la seule journaliste à l'avoir rencontré.
C'est à lui que Samuel Paty avait confié en premier ses difficultés avec une classe après avoir montré des caricatures. Ils étaient professeurs d'histoire-géographie tous les deux et très proches.
Mes relations avec lui, elles étaient amicales, professionnelles. Je l'ai côtoyé pendant 3 ans, tous les jours. J'étais impliqué dans certains projets avec lui, donc on a travaillé directement ensemble.
Le choc a alors été terrible pour ce professeur qui a continué à enseigner pendant 2 mois. Mais après les vacances de Noël, il craque.
Au mois de janvier, je ne me sentais plus capable de me rendre au collège, de passer tous les jours devant la salle de Samuel, de passer devant son casier, de revenir tous les jours dans la rue où ça s'est passé. On ne peut pas faire semblant. Être devant les élèves tout en étant mal, ce n'est pas leur rendre service justement.
Il comprend à ce moment-là qu'il ne pourra plus faire cours devant des collégiens et qu'il n'a plus le recul nécessaire pour enseigner.
C'est une décision difficile à prendre. Se mettre en arrêt dans cette situation-là, c'est aussi se mettre de côté. C'est aussi ne plus être là alors que les autres le sont. C'est aussi quitter un collectif. Et parfois, ça peut vouloir dire aussi avouer ses faiblesses.
Il raconte que l'éducation nationale l'a soutenu et accompagné avec bienveillance dans sa recherche d'une nouvelle voie professionnelle. Il s'est relancé dans des études en alternance dans le domaine du marketing.
C'est important pour moi qu'il y ait du changement, pouvoir développer de nouvelles compétences, rencontrer de nouvelles personnes.
Un changement de vie radical, mais indispensable pour se reconstruire.
Témoignage au micro de Sonia Princet. Cet homme, cet ancien collègue de Samuel Paty, sera présent samedi au collège du Bois d'Aulne pour rendre hommage à son ami. Et puis à l'approche des commémorations, Gérald Darmanin a lancé un appel à la vigilance à l'intérieur et aux abords des établissements scolaires. Message passé au préfet chargé de la sécurité. Alors que la vigilance sur les réseaux a été largement renforcée depuis un an. Le terroriste Abdullah Anzorov les avait abondamment alimentés de ses messages sur Twitter dans les 3 mois qui ont précédé l'assassinat, signalé à la plateforme Pharos, sans donner lieu à une enquête sur le terrain. Depuis, cet office de surveillance du ministère de l'Intérieur a doublé ses effectifs et fonctionne 24 heures sur 24. Comment travaillent ces agents et quels sont leurs résultats? C'est un reportage exclusif signé Emmanuel Leclerc.
La plateforme Pharos, c'était 10 policiers à sa création en 2009, 24 encore l'année dernière avant l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. Désormais, il y a des policiers, des gendarmes, 54 agents, tous en civil, derrière leurs écrans, à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, répartis en 3 pôles distincts.
Policière ici, là vous avez la cellule discrimination qui a également été renforcée. Et ici, on a la cellule retrait, blocage des référencements.
Cécile Augereau est la chef de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité, dont dépend Pharos. La plateforme reçoit beaucoup moins d'alertes et de signalements qu'après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Mais ce sont ces enquêteurs qui ont pris le relais et détectent désormais les cas les plus inquiétants.
90% des contenus sont issus de cette veille proactive en matière terroriste.
Vous allez sur toutes les plateformes, il n'y en a aucune qui vous échappe ?
Toutes. Et juste pour illustrer en matière de retrait, on est à pas loin de 10 000 demandes de retrait en lien avec le terrorisme. Ça fait une augmentation de 219% par rapport à l'année dernière.
Chaque jour, ce sont quand même encore une trentaine de cas qui sont repérés ou signalés en matière terroriste. Des profils inquiétants, des messages, des photos, des horreurs commises par des terroristes à travers la planète.
Sur toutes les plateformes actuellement, il y a encore des images violentes.
Pierre est l'un des enquêteurs de la plateforme Pharos.
Facebook, YouTube, Twitter, etc.
Les enquêteurs peuvent être confrontés à tout type de contenu, allant jusqu'à des scènes de décapitation.
Si l'objectif de Pharos est de détecter des profils comme Abdullah Anzorov, le moindre cas suspect est désormais aussitôt transmis à une cellule spéciale de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Sur un écran de Pharos, un enquêteur a ressorti un photomontage djihadiste qui avait circulé après l'attaque contre Samuel Paty. Il pense qu'il risque d'y avoir de nouveaux photomontages ce week-end, un an tout juste après l'attentat, et qu'il faudra repérer, bloquer et faire retirer par les opérateurs Internet le plus vite possible. La nouvelle loi européenne doit permettre d'ici l'été prochain de les neutraliser en moins d'une heure.
Emmanuel Leclerc pour ce reportage exclusif à réécouter sur franceinter.fr. En Norvège, c'est un acte terroriste. La police ne l'exclut pas. Après une attaque à l'arc et aux flèches qui a fait 5 morts et 2 blessés à Kongsberg, une petite ville de l'est du pays, l'assaillant a été arrêté. Selon la télévision danoise, il s'agirait d'un homme converti à l'islam avec des antécédents médicaux. Mais on ne connaît pas encore ses motivations.
Il est 8h08, Florence, au bord du gouffre, à chaque passage à la pompe.
Comment aider les Français qui en ont le plus besoin face à la hausse des prix des carburants? Le gasoil n'a jamais été aussi cher, le prix de l'essence s'envole et le sujet, on le sait depuis la crise des gilets jaunes, n'est pas à négliger quand on est au pouvoir. D'où l'annonce d'un geste bientôt de la part du gouvernement. Plusieurs pistes sont à l'étude, mais en attendant, ceux qui doivent remplir leurs réservoirs en sont réduits au système D, comme 10 mois où le carburant est le moins cher, ce que permettent les applications qui comparent les prix. C'est comme ça que Valentin Dunat s'est retrouvé dans l'une des stations les moins chères d'Île-de-France.
Et c'est au carrefour de Créteil, dans le Val-de-Marne, 1,530€ le litre de gasoil. Ici, il y a une vingtaine de pompes et beaucoup d'automobilistes, parmi eux Samir, qui livre les journaux avec sa voiture.
Ça m'arrive de faire des kilomètres pour chercher le moins cher. Par rapport à mon salaire et les loyers, tous les charges, quand je gagne 3 à 5€ par plein, c'est pour moi bien. Je suis obligé de chercher ailleurs, de chercher à chaque fois. De l'application, ou le bouche à l'oreille, tout ça.
L'application Essence Co, qui permet de comparer les prix, connaît cette semaine une hausse de fréquentation de 40%. Le prix de l'essence devient une réelle préoccupation, notamment pour les professionnels comme Oscar, qui est dépanneur.
Moi, j'ai utilisé une application pour venir ici parce que je suis pas du coin. Ouais, donc là, on est à 1,53, on est vraiment bien. Mais ça reste cher quand même. Hein.
Oscar, il n'est pas le seul, hein, sait très bien que les taxes représentent plus de la moitié du prix. Il attend désormais des actes concrets de la part de l'État.
Oui, en baissant les taxes, déjà, c'est la première chose à faire. De manière à pouvoir soulager un petit peu les concitoyens. On est des vaches à lait, quoi, grosso modo. Donc il faut absolument qu'ils fassent quelque chose.
Sauf que pour l'instant, la baisse des taxes n'est pas envisagée. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Voilà ce que dit le porte-parole du gouvernement.
Et chacun son idée pour faire baisser les prix. À gauche, Jean-Luc Mélenchon prône un blocage des tarifs. Quand Anne Hidalgo réclame une baisse des taxes, la maire de Paris, candidate à la présidentielle, officiellement sous les couleurs du Parti Socialiste ce soir, investit à coup sûr face à son seul adversaire, Stéphane Le Foll. Mais ensuite, il va falloir faire redécoller sa campagne. Anne Hidalgo reste très bas dans les sondages et les militants s'interrogent sur sa stratégie. Parole de socialiste de l'Indre au micro d'Antoine Gignot.
Il n'a rien contre Anne Hidalgo.
C'est quelqu'un qui a des qualités indéniables.
Mais François Avisseau s'interroge. Quand on a 32 ans et qu'on milite à Aiguzon, dans l'Indre, comment s'engager pleinement derrière une candidate sans avoir pu discuter de ses idées ou de son positionnement?
Moi, je pense que ce qui mobilise les militants socialistes, c'est effectivement les idées. C'est de penser que ça vaut le coup. Pour ça, il faut avoir envie. Il faut que le programme soit clair, avec des mesures fortes. Si on n'en fait qu'une histoire de personne, je pense qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on représente dans l'histoire de notre pays.
Après les échanges houleux au niveau national, la désignation officielle d'Anne Hidalgo va surtout permettre d'apaiser les tensions parmi les militants socialistes, analyse Delphine Chambonneau, la première secrétaire du PS de l'Indre. À une condition, il faut que la maire de Paris reprenne la main.
Il y a une nécessité de convaincre. Et là, il faut le faire tout de suite. Moi, j'ai fait la campagne de François Hollande en 2011. C'était enthousiasmant. Celle de Ségolène Royal aussi. Là, on a envie de ça. Il faut prouver qu'on a un projet et on a une candidate crédible qui peut s'imposer sur le terrain des idées.
Aller vite, être visible, voilà l'enjeu pour les jours qui viennent. Les militants de l'Indre doivent recevoir ce week-end des affiches et du matériel pour lancer véritablement la campagne.
Antoine Gignot, la fin du masque à l'école dans 12 nouveaux départements à partir de lundi, parmi lesquels l'Hérault, le Haut-Rhin, la Seine-et-Marne ou la Drôme. En revanche, les écoliers de Lozère vont devoir s'y remettre. Là-bas, ce sera le retour du masque en raison d'une hausse du taux d'incidence dans le département. CNews, Europe 1, Paris Match, le journal du dimanche, l'empire médiatique de Vincent Bolloré est en train de s'étoffer. Mais avec quelle méthode? Dans un film produit par Reporters sans frontières, 11 journalistes témoignent, de Benoît Colomba de Radio France à Pascal Clark en passant par Patrick Cohen. Tous décryptent Alexandra Akoun, le système B comme Bolloré.
Il y a ceux qui ont travaillé pour des médias passés sous sa coupe.
C'est une version totalitaire du journalisme.
Ou sont partis avant.
Après tout, on peut se dire, Bolloré, il finance, il fait ce qu'il veut. Sauf que là, c'est de l'information.
Ceux qui ont osé enquêter sur ses activités en Afrique et depuis croulent sous les procédures.
On est vraiment dans des poursuites qui sont, pour moi, abusives, qui sont des poursuites bâillons, qui visent à ce que les médias se censurent ou s'autocensurent sur ces sujets qui sont sensibles pour le groupe Bolloré.
Des spécialistes du secteur aussi.
On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous.
Certains n'avaient jamais osé témoigner. Leurs récits sans fioritures face caméra sont saisissants, concordants, complémentaires. En à peine 15 minutes, c'est bien un système déjà très rodé de contrôle de l'information qui apparaît à coups d'intimidation, voire de terreur. Pour Reporters sans frontières qui l'a produit, ce film est un cri d'alarme. Son secrétaire général, Christophe Deloire.
La conception de Vincent Bolloré d'un journalisme asservi à ses intérêts, d'un journalisme servile, voire d'un journalisme réduit à pas grand-chose, c'est ce qu'il a fait dans ses médias. C'est quelqu'un qui a quand même largement éradiqué le journalisme d'investigation. C'est dangereux pour la démocratie. Il faut trouver les moyens d'éviter que le système médiatique devienne un système où des médias sont des jouets pour l'influence de leurs propriétaires.
Des propos forts auxquels Vincent Bolloré n'a pas réagi, ses avocats non plus, en tout cas jusqu'à présent.
Un film mis en ligne ce matin sur le compte Twitter de Reporters sans frontières. En Gironde, un professeur de tennis de 51 ans mis en examen hier pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Il enseignait à Arcachon où les faits se seraient produits pendant les vacances entre 2008 et 2009. 3 plaintes ont été récemment déposées à Paris. Un salut nazi à la mi-temps et une condamnation à 1 an de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de stade prononcée hier contre un supporter niçois qui avait en plus mimé une kippa pour accompagner son geste lors du Nice-Marseille. Et puis de quoi peut-être susciter des vocations dans la gendarmerie. L'institution vient de commander 26 Alpine Renault pour les interventions rapides. Ces voitures de sport à la diffusion confidentielle. Il ne s'en est vendu que 10 000 depuis 2017. Elle monte de 0 à 100 km heure en 4 secondes et demie.
Il est 8h14, Florence, à présent ce drame dans l'échelle des saveurs.
Le camembert, qui est notre emblème, comme chacun sait, avec la baguette et le béret, le plus connu des fromages français, vient de prendre un sacré coup de mou. Le voilà détrôné par un collègue bien moins odorant et italien de surcroît. Les Français, Faustine Calmel et on en tremble, ont moins mangé de camembert que de mozzarella depuis le début de l'année.
Les chiffres du syndicat des fabricants de camembert sont formels. 29 230 tonnes vendues en France entre le 1er janvier et le 11 septembre. C'est 4 de moins que pour la mozzarella.
Mozza par-ci, mozza par-là. Burger mozza, mozza pasta, mozza pizza.
Comme dans la pub, le fromage italien se cuisine à toutes les sauces et continue sa progression après une année 2020. Record consommation en hausse de 21% en temps de confinement. Et cette suprématie perdue relance la guerre du camembert.
On s'est battu pendant plusieurs années pour essayer de donner un réel cahier des charges à nos camemberts normands et l'échec a été acté il y a maintenant plus d'un an.
Benoît Duval représente le camembert AOP et regrette l'absence d'accord avec les industriels.
Et donc quand on s'enfonce sur des produits banalisés, et ben, le consommateur n'est certainement pas indifférent à cette banalisation du camembert. Le consommateur doit être très vigilant par rapport à son acte d'achat parce que derrière, le camembert de Normandie arrive à tirer son épingle du jeu sur ses ventes.
Les ventes des camemberts d'appellation d'origine protégée ne reculent pas, défend Benoît Duval. Mais comme elles ne représentent que 10% du total de la production française, cela ne suffira pas à contenir l'avancée de la mozza.
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on continue à acheter du bon camembert AOP. Des prix garantis, je sens que c'est un vrai sujet pour vous, Nicolas.
Ça
Les prix garantis pour 3 ans aux agriculteurs. Le Parlement adoptera définitivement aujourd'hui la loi Egalim 2 qui instaure de nouvelles règles du jeu entre les agriculteurs et les industriels de l'agroalimentaire. Enfin, c'est ce qui fait le sel ou la caricature de l'art contemporain. L'effet Banksy ou comment valoriser une œuvre en la détruisant. Souvenez-vous de ce tableau mis aux enchères à Londres il y a 3 ans, à peine adjugé 1,2 million. Il s'était autodétruit. Eh bien, le même tableau sera revendu au même endroit aujourd'hui chez Sotheby's. Sauf qu'entre-temps, sa valeur a quadruplé. Richard Place, il est estimé à 4,7 millions d'euros minimum.
Le marteau du commissaire-priseur vient juste de s'abattre, des bips en provenance du tableau retentissent. Stupéfaction dans la salle, la moitié de la toile est déchirée par un mécanisme installé dans le cadre. Banksy révèle ensuite dans une vidéo qu'il a lui-même mis en place ce stratagème. On découvre alors que ça n'a pas parfaitement fonctionné puisqu'il prévoyait de mettre en pièces l'intégralité de son œuvre. L'artiste anonyme entendait se moquer une nouvelle fois du marché de l'art dont il cultive la détestation, tout en étant l'un des noms les plus recherchés par les collectionneurs. Aujourd'hui, c'est donc ce même cadre avec un dessin partiellement détruit que l'on va retrouver chez le même prestigieux vendeur, la maison Sotheby's. Sa valeur a quadruplé selon l'estimation la plus basse et les enchères pourraient l'emmener beaucoup plus haut. Le dispositif de destruction, inactif désormais, est toujours là. Le nom du tableau a changé, la petite fille au ballon s'appelle maintenant « L'amour est dans la poubelle ». Londres, Richard Place, France Inter.
Je suis en train de m'auto-détruire, Nicolas. Est-ce que ça va faire monter ma cote ou pas?
Non, restez comme ça. Il est 8h17. Merci Florence, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Marie-Pierre, les températures chutent ce matin.
Et oui, il y a pas mal de gelée, hein, Nicolas. Moins 2 à Aubusson ou à Ambert dans le Puy-de-Dôme, moins 1 en Champagne, mais aussi au Puy-en-Velay, au Vert, au Riac. Il fait seulement 1 petit degré à Chartres, comme dans les Landes. 3 à Lyon, 6 à Paris, 7 à Marseille, 9 à Perpignan, mais 11 à Calais et 17 au Cap-Camara. Et les bandes brouillards sont encore nombreuses ce matin en Bretagne, au nord de la Seine, aux Ardennes, mais aussi vers Nevers, dans le Val-de-Saône, sans oublier la Garonne. Et ces brumes vont finir par se dissiper. Et vous passerez une matinée de plus en plus ensoleillée, avec quelques nuages encore nombreux près des frontières du Nord-Est.
Et l'après-midi est aux couleurs de l'été indien.
Et on ira où vous voulez, quand vous voudrez, hein, sous ce soleil généreux, mais dans la pollution. Et avec cet anticyclone qui se positionne sur le nord du pays et dans le nord-est, la masse d'air va finir par s'assécher quand même, réduisant la couche nuageuse. Et autour de la Méditerranée, le vent va s'essouffler, sauf en Corse. Et quelques moutons vont se dessiner entre la Provence et la Côte d'Azur. Et avec cet ensoleillement, le mercure va remonter un peu, avec 14 à Saint-Amour, 15 à Metz et Lyon. Vous aurez 16 à Lille et Strasbourg, 17 à Paris, 18 à Saint-Brieuc et Nantes. Comptez 19 à Manosque, 20 à Bordeaux, 21 à Marseille, 22 à Biarritz et à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. Il est 8h19.